Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie. Vous écoutez le Libre Journal de Chrétienté, dirigé par Daniel Amiche, diffusé en direct jeudi 24 juillet 2014 de 18h à 21h. Il est diffusé en différé vendredi 25 dans la nuit de 2h à 5h, dans la matinée de 7h30 à 10h30, puis à la demande sur le site internet de Radio Courtoisie. Ce Libre Journal est réalisé par Jocelyn. Vous pouvez intervenir au cours de cette émission par téléphone au 01 46 51 00 85, par télécopieur au 01 46 51 21 82 et par courrier électronique à courtoisie@radiocourtoisie.fr.
Rebonsoir, chers amis auditeurs, pour cette seconde partie du Libre Journal de Chrétienté du jeudi 24 juillet 2014, dirigé par Daniel Amiche, comme d'habitude. Ça fait 23 ans, les gens commencent à me connaître, de toute façon j'ai besoin de me présenter au téléphone. Alors, en seconde partie d'émission, nous allons avoir un tout petit changement, puisque bon, les invités sont arrivés, je vais vous les présenter tout de suite, mais nous aurons vers 20h Ivana Gagic de Solidarité Kosovo, qu'on n'a pas réussi, on l'avait jointe, parce qu'elle est à Belgrade, donc c'est un peu compliqué pour les communications téléphoniques, donc on l'a eu au téléphone, et puis le temps que je bavarde, comme d'habitude, pouf, ça a raccroché, on n'a pas eu d'encore là. Maintenant, je pense qu'on aura 20h pour une courte séquence sur un problème d'un monastère qui est à Visoki Dečani, au Kosovo, un très beau monastère orthodoxe qui est toujours sous la menace des islamistes, des voyous, quoi. Passons. Alors, et puis nous aurons en toute fin d'émission, comme vous l'avez entendu tout à l'heure, Maître Jérôme Triomphe du Barreau de Paris. Jérôme Triomphe est très très connu de nos amis auditeurs dans la Courtoisie. Il ne saurait se passer de la chronique de Maître Triomphe, qui viendra nous dire des choses très intéressantes en toute fin d'émission. Et alors, entre-temps, nous aurons entendu Elisabeth Smadja. Bonsoir Elisabeth Smadja, c'est une grande joie de vous revoir ici.
Hein. Bonsoir Daniel, moi aussi c'est une grande joie
d'être là. Vous vous rendez compte, on ne s'est pas vu depuis au moins, ça va faire au moins 5 ou 6 ans.
Peut-être pas, parce qu'on s'est vu pour la sortie de mon deuxième livre, Les fruits d'une conversion.
Ah oui, c'est vrai, alors donc ça fait un peu plus court,
voilà, deux ans et demi à peu près.
Deux ans et demi. Alors, je vous présente rapidement, puis après on va parler avec vous. Alors, vous êtes juive, maintenant catholique, enfin bien comme il faut, comme catholique comme le bon Dieu, comme dit De Funès dans le film bien connu, mais en même temps... Vous avez passé quand même une dizaine d'années dans le hassidisme, c'est ça, hein, vous avez
dans 20 ans dans le mouvement hassidique.
Hein, bon. Et là, vous venez de publier un livre, alors à deux mains, hein, ou à quatre mains, on dirait pour des joueurs de piano, à quatre mains, avec Marie-Hélène Duparc-Luc-Maria. Alors, moi, je ne sais pas, évidemment, il y a des petits passages, je sais que c'est vous, il y en a d'autres qui sont sans doute d'elle, hein, c'est difficile à déterminer, mais c'est un très, très beau livre qui s'appelle « Aux sources hébraïques ». De la foi chrétienne. C'est un livre, je l'ai lu deux fois, c'est un livre épatant, alors on va pas pouvoir, chers amis auditeurs, vous aurez redonné toute la richesse en une demi-heure, mais on va essayer de vous en dire le plus possible, parce que c'est vraiment un très 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 beau livre qui nous mène très très loin. Et c'est intéressant que ce soit Elisabeth Smadja qui parle de ce truc-là, c'est vraiment, vraiment très très bien. Et puis, nous allons avoir aussi, en direct, dans le studio, l'abbé Wilfried Wuyi. Bonsoir, monsieur l'abbé. Bonsoir. Approchez-vous. Daniel. Quand vous parlez, parlez bien près du micro. Alors, moi, je vous ai entendu mercredi dernier, le matin, sur Radio Courtoisie. C'était l'émission de l'abbé Guillaume de Tannoirne. Et il vous avait invité comme un des deux invités de cette émission. J'ai été tellement emballé par tout ce que vous avez dit. D'abord que j'ai félicité l'abbé de son émission, ce que je fais jamais, parce qu'on est tellement copains que je le félicite pas entre nous de l'émission, les émissions qu'on fait. Et j'ai dit, moi, je veux absolument avoir s'il n'est pas parti, je veux avoir l'abbé Wilfried Wuyi dans mon émission, parce qu'il a des choses passionnantes à dire. Alors, c'est un jeune prêtre du Burkina Faso. Faso, on dit Faso ou Faso ?
Faso.
Faso, Faso. Enfin, comme un S, hein. Faso, oui. Faso, comme deux S, Faso. Qui est... directeur d'un collège, le collège Saint-Antoine de Padoue. Alors, le Burkina Faso, c'est un... Bon, on va dire tout ça tout à l'heure, parce que c'est pas la peine de commencer à ça. Mais vous allez voir, c'est absolument passionnant. Alors, ce soir, il va être encore plus passionnant que chez Tannoirne. Hein. Je veux que vous soyez meilleur que chez Tannoirne. Je ne supporte pas Talwart, je suis jaloux de Talwart. Voilà, bon. Alors, c'est un bon camarade. La vie de Talwart, c'est des personnages comme ça que j'ai, que le bon Dieu m'a donné la chance de rencontrer dans ma vie, quoi. Je rencontre. C'est formidable. Moi, je fais un métier qui est quand même, c'est pas un métier ici, c'est parce que je suis pas payé pour faire ça. Mais, je trouve que c'est formidable. Tous ces gens formidables que je rencontre depuis plus de 23 ans. Certains ne sont plus de ce monde, mais c'est formidable. Moi, je m'enrichis. Moi, je fais de la radio pour. Parce que moi, je suis bête, mais. Alors, moi, je fais de la radio pour apprendre. C'est pas pour ça que je fais là. C'est vous qui m'apprenez, moi. C'est... Alors, on va faire une deuxième partie d'émission passionnante. Chère Elisabeth Smadja, vraiment, votre livre Aux sources hébraïques de la foi chrétienne, publié chez Salvatore, m'a vraiment beaucoup bouleversé. Pourquoi ? Parce que je vois chez vous, donc depuis l'apparition de première liste en 2007, hein, chez
De Guibert.
Chez Guibert, qui n'était pas prêtre encore à l'époque, maintenant il est prêtre.
Oui, voilà.
Il est devenu prêtre François-Xavier de Guibert. Oui. C'est quand même, tout ça, c'est vraiment extraordinaire. Il a été dans ce studio des dizaines de fois, pas en passant. Je vois vraiment un approfondissement pour vous et pour nous. De la foi chrétienne. Vous avez cette expression, ce livre rafraîchit notre vision du Christ. Vous pouvez expliquer ça, vous le dites quelque part.
C'est-à-dire, je ne sais pas si c'est le terme rafraîchi, en tout cas ça renouvelle, voilà, ça renouvelle la vision du Christ, parce que mon souci est de le rattacher à son peuple, à sa foi. De là où il y avait rupture, montrer qu'il y a vraiment, qu'on voit d'une manière très claire qu'il n'y a pas justement de scission, qu'on parle du même Dieu, mais que c'est uniquement une question de dévoilement de sens d'après et à partir du texte hébraïque. Voilà. Donc c'est surtout ce travail que je fais. Pour moi, c'est en cela que Jésus de Nazareth, le Messie d'Israël, donc le Christ, est vraiment venu accomplir, c'est-à-dire amener à son but, à son accomplissement, la Torah qu'Israël a reçue au Sinaï par Moïse.
Par Moïse. Alors quand on est, bon c'est ce que dit, je ne suis pas venu abolir, hein. Quand il dit la loi, évidemment c'est la Torah, c'est l'ensemble... De l'écriture, de ce qu'on appelle l'Ancien Testament, le Nouveau Testament. En fait, c'est un testament en deux parties. Hein,
voilà, moi j'aime pas le mot testament.
Le mot testament, on n'a pas trouvé mieux, voilà. Mais c'est un...
C'est alliance, moi
ouais,
je parle de première alliance,
c'est
deuxième alliance, ou alors
c'est les
enseignement,
le covenant,
ou enseignement.
Oui, c'est l'enseignement
et évangile qui est bonne nouvelle.
C'est l'alliance. Mais voilà. Ce sont des alliances successives, parce que le bon Dieu n'arrête pas de faire des alliances. Il fait une première alliance avec nos premiers parents, Adam et Ève.
Hein, voilà.
Couple d'origine. Après, il fait une alliance avec une famille, c'est celle de Noé. Hein, c'est, bon. Après, avec une tribu, alors c'est Abraham. Et puis après, avec un peuple, et bientôt une nation, c'est Israël. Bon. Et puis après, bah, c'est l'alliance qui s'ouvre à toutes les nations. C'est une espèce de un épanouissement. Le plan de Dieu, c'est un plan qu'il a toute éternité. Enfin, on le voit se réaliser. Alors, il ne faut pas dire, il y a l'Ancien Testament, ça fait vieux, le Nouveau, ça fait moderne.
Voilà, hein, c'est dommage.
L'Ancien Régime et le Nouveau Régime.
Voilà, c'est de là que vient...
C'est pas juste, parce que le Christ est au pivot. Il est l'alpha et l'oméga. Il est le commencement, il est la fin. Et il est aussi le cœur. C'est le pivot entre la première étape ou les premières étapes de la pédagogie divine et puis la nouvelle étape qui s'ouvre de pédagogie divine, parce que c'est toujours une pédagogie. Dieu est un grand pédagogue, c'est un grand pédagogue.
C'est comme l'a senti Saint Paul par intuition et par révélation, il est venu vraiment abolir ce qui séparait Israël des nations. Voilà, donc ça c'est vraiment énorme.
Ouais. Alors, c'est ce que vous essayez d'approfondir avec une belle érudition. Alors, par quoi vous disiez quelque chose que moi, j'avais entendu parler, mais je ne me suis pas beaucoup intéressé à ça. C'est la gématrie.
On se sert. Il y a de la gématria parce
que. Alors, qu'est-ce que c'est que ça, la gématria?
C'est-à-dire qu'on part de l'hébreu. Il n'est pas nécessaire de connaître l'hébreu, bien sûr, pour lire ce livre.
On le lit très facilement.
Voilà. Alors, l'hébreu est une langue particulière qui est consonantique, donc il n'y a que des consonnes. Et chaque lettre est aussi un chiffre. Donc ça ouvre à une multitude de sens par rapport à un mot. Si on fait voyager les consonnes dans le mot, on peut trouver...
On permute.
Voilà, on permute, c'est la permutation, le tserouf. On peut trouver d'autres mots. Si on vocalise différemment, on peut encore trouver d'autres mots. Et on peut procéder par analogie, c'est-à-dire chaque lettre ayant un chiffre, donc un poids sémantique, on additionne les chiffres d'un mot et on peut le rapprocher d'un autre mot qui a le même poids. Et ensuite, ça fait travailler donc, l'imagination, chacun selon qui il est. Ça va lui parler, faire un écho en lui, et ça va lui donner des possibilités de lecture différentes, qui n'enlèvent pas, je rappelle bien, la lecture et la première, hein, qui reste la base pour tout le monde.
Bien sûr. Alors j'aime bien votre aussi. Alors ça, c'est vous l'avez pas inventé, mais vous le développez. C'est une jolie chose parce qu'on a aussi comme ça des mots qui sont des mots tout faits chez nous, les Français. Parce que ça vient, on a le latin, on a traduit du latin en français, puis les latins ont traduit du grec, etc. Bon. Et on perd beaucoup de saveur, on perd un peu de sens parfois, parce que, par exemple, il y a les 10 commandements. Les 10 commandements, hein, c'est le commandement dans l'entreprise. Hein, le chef de bureau, il commande à ses subalternes, le général commande à ses troupes, le roi commande à ses sujets, etc. Le commandement. Oui, mais sauf que, en hébreu, c'est pas commandement, c'est parole, en fait.
Tout à fait. Il n'y a jamais écrit dans la Torah. Écrite. Donc la Torah, c'est les 5 livres, hein, ce qu'on appelle Pentateuque. Le Pentateuch, le Chumash en hébreu. Il n'y a jamais écrit le mot loi. C'est Aseret HaDibrot, c'est-à-dire ce sont les 10 paroles. C'est-à-dire que là, on rentre, et c'est pour ça qu'il y a une connexion avec le christianisme. Notre Dieu, le Dieu d'Israël, le Dieu des chrétiens, le Dieu de Jésus, est un Dieu de parole, de relation. Il entre en relation, et par ces 10 paroles, il nous donne comme une charte relationnelle et il nous dit, voilà, si vous voulez, donc ce n'est pas quelque chose de contraignant de l'ordre de la loi et de la tyrannie, si vous voulez entrer en relation avec moi, votre Créateur, en suivant ce processus, vous accédez à la bénédiction, on se connecte, comme on dirait aujourd'hui, puisqu'on a ces termes techniques. Voilà, on peut avoir ces termes techniques, on se branche, voilà, à lui de cette manière-là. Et si on ne fait pas cette charte, donc on se débranche, on est dans ce qu'on appelle la faute, mais en hébreu le mot faute, khatat, signifie aussi manquer la cible. On manque le cœur de Dieu. On n'est plus dans la réception de ce flux divin et de bénédiction.
Il faut faire attention que la langue hébraïque n'est pas une langue conceptuelle. Elle est moins conceptuelle que la langue grecque, ou peut-être la langue française, ou tous ceux de la philosophie, tous ceux qui font de la philosophie aussi savent ça. C'est toujours très concret dans le vocabulaire hébraïque. Puis il m'est venu tout à l'heure, dans le bus là, qui m'amenait deux heures, trois heures, au studio, revenu une citation que j'avais gardée en tête de Claude Tresmontant. Vous savez, c'est un grand oui. Hébraïsant, un grand érudit. Il a fait des travaux de Tresmontant. Je l'ai eu dans le studio, Claude Tresmontant. Hein. M'a toujours passionné. Et il disait, alors il avait une expression comme ça, c'était, je disais, on parlait du verbe de Dieu. Hein, le verbe de Dieu. Mais c'est bizarre comme pour, le verbe, que c'est que ça, le verbe de Dieu. Le verbe de Dieu, c'est bizarre. Bon, oui, au commencement, c'était le verbe, etc. Bon. Et il disait, le verbe de Dieu, c'est Dieu qui cause. C'est-à-dire que le verbe, c'est Dieu. Parce que la parole, c'est sa parole. Mais c'est une parole qui donne la vie. C'est une parole qui est une parole créatrice, par définition. Le verbe, c'est pas une parole comme moi je fais maintenant pour ne rien dire. Bon, c'est une vraie parole qui crée. Dieu dit et les choses se font. Bon, voilà. Alors, je trouve... Et ça, il y a ça aussi dans votre livre, cette idée de verbe.
Oui, ça c'est ma recherche personnelle, en plus que je transmets, c'est qu'en travaillant sur le langage, la langue hébraïque, et je me suis mis à reconsidérer le Christ autrement que dans sa dimension d'être humain, mais dans sa dimension de verbe. Et donc, je me suis dit, s'il est le verbe, comment je peux, moi, dialoguer avec lui, moi qui suis fait à l'image et à la ressemblance de Dieu, donc chaque être humain parle. Et donc, crée aussi quelque part, pas du néant comme Dieu, on crée à partir de ce que Dieu nous a donné. Et donc, se mettre en relation avec le Christ, je me suis dit que c'était aussi se mettre en relation avec le Verbe, notre Verbe, les mots que nous employons, et le Verbe de la parole de Dieu qui travaille en nous, qui est comme une graine, un grain de blé en nous, qui va germer. Et donc, il s'agit de se connecter, pour chacun d'entre nous, à son Verbe, et d'ainsi, c'est ma façon de voir, enfanter quelque part en nous, à l'instar de Marie, si l'on veut dire, le Verbe. de Dieu. Vraiment avoir un verbe qui serait créateur, purifié, et qui exprimerait l'amour total de Dieu.
Mmh. Alors, c'est une sorte d'espèce de coopération avec Dieu que vous envisagez alors de...
C'est pas moi qui l'envisage, c'est dans la création, Dieu l'homme collabore avec Dieu pour un projet divin qui est celui de son avènement ici-bas, de faire d'ici-bas, de cette terre, son royaume. Et le Christ nous a montré aussi que ce royaume se fait à l'intérieur de nous, puisque nous sommes temple, chacun d'entre nous. Nous sommes donc... le temple, c'est l'endroit où Dieu réside, où Dieu nous parle, où nous nous réconcilions avec lui.
Alors, quelle question vous posez, parce que j'ai reçu aussi, puis je recevrai à la rentrée, un autre type. Très très bien, c'est, alors j'essaie de retrouver son nom, parce que moi malheureusement à mon âge, à mon grand âge, la mémoire commence à vous, ça va, vous êtes jeune, mais moi je commence à fatiguer un peu, bon je vais dire, bon, c'est comme ça, vous verrez, vous ne riez pas, parce que ça vous arrivera aussi, vous verrez monsieur l'abbé. Bon. Jean-Marie Élie,
c'est bon.
Voilà. Peut-être un garçon
oui, je le
tout
connais.
À fait
oui.
Extraordinaire. Bon, encore un juif, alors lui qui a eu encore une autre expérience, il était rabbin. Il était rabbin,
tout
c'est quand même quelque chose. Bon. Mais c'est un rabbin qui a toujours une passion pour la croix depuis qu'il est petit. C'est quand même bizarre. Ce sont des expériences, soit la vôtre, celle de l'Américain Sherman aussi, que j'avais reçue ici, je crois qu'on l'avait eu, en traduisant en même temps, mais enfin bon, voilà, parce qu'il parle quand même plus l'anglais que français. Bon. C'est quelque chose de très important parce que, est-ce que c'est parce qu'il y a beaucoup aujourd'hui de moyens de communication qui fait qu'on peut vous écouter, qu'on peut vous entendre, qu'on peut vous lire, que peut-être il n'y avait pas dans les siècles précédents, c'est vrai. Est-ce que c'est pas aussi un signe qui nous montrerait que nous arrivons à un certain aussi aboutissement des choses et que le retour de l'Israël qui manque non pas à l'amour de Dieu parce que Dieu aime tout le monde hein, mais qui manque à son plan pourrait aussi se manifester par votre conversion. Mais enfin, ce n'est pas une conversion. C'est ce que je dis tout le temps, c'est plutôt un accomplissement qu'une conversion, en fin de compte. Bien sûr, il y a un moment de conversion, mais c'est un accomplissement. Ce qui est d'ailleurs pour chacun d'entre nous. Mais vous, d'une façon un peu spécifique.
C'est-à-dire la conversion, pour moi, donc, ça serait plutôt de reconnaître que Jésus de Nazareth est le Messie qu'on attendait, de me, on va dire, de recevoir... la lumière de son enseignement, qui est pour moi la Bessora Tova, c'est-à-dire la bonne nouvelle, les évangiles. Et ensuite, une fois qu'on a fait cette rencontre avec le Christ, vivre de sa vie, c'est-à-dire des sacrements. Et dans ce livre, je parle beaucoup des sacrements, qui je les restitue dans leurs racines juives, mais il n'y a pas de sacrements dans le judaïsme. Simplement, ils ont comme base la pratique juive, et Jésus de Nazareth l'ouvre à l'universel pour chaque individu qui veut entrer dans cette alliance par lui, puisque ça ne peut se faire qu'avec lui, qui est le Fils, qui est le nouvel Adam, c'est-à-dire celui qui contient en lui-même toutes les âmes de tous les êtres humains.
Alors il y a une chose que j'ai non pas découvert dans votre livre, mais qui est confirmé par la lecture que j'ai faite de votre livre, c'est justement ces fameux... On a commencé notre discussion là ce soir sur l'histoire des deux testaments, hein, qui sont opposés. Certains sont allés d'ailleurs très très loin, les martionnistes disant « on prend que le nouveau, l'ancien, ça ne vaut plus rien du tout bon. ». Ne pas comprendre que c'est une grande pédagogie, hein, c'est ça qui est très, très énervant. Mais c'est surtout ça, la lecture de votre livre me confirme dans l'idée, qui n'est pas mon idée à moi, j'ai rien inventé, hein, je ne suis pas théologien, je vous préviens tout de suite, soyez tranquille, ce n'est pas ce soir que je vais vous faire des questionnaires difficiles. Mais ce qu'on pensait souvent et exprimé souvent des pères de l'Église, en disant que le Nouveau Testament est annoncé dans l'Ancien Testament, et que le Nouveau Testament permet de mieux lire, de mieux comprendre l'Ancien Testament. Cette espèce de dialogue entre ces deux moments dont le Christ, par son incarnation, enfin Dieu par son incarnation, est le moment pivotal, Oui, c'est, est-ce que je me fais comprendre de vous? Si vous me comprenez, je pense que les auditeurs vont comprendre.
Oui, tout à fait. Il faut rétablir ce dialogue qui existe, qui est de tout temps. Et moi, je prends toujours comme image que Israël, le peuple d'Israël, c'est la mère, la mère père du de Jésus, donc du christianisme, et c'est bien de faire la paix de la famille. Voilà, là, la mère ne reconnaît pas son enfant ou ne voit pas son enfant, et le fils, bah, comme tout fils des fois, on a tendance à renier d'où l'on vient. Quoi, hein, pour pouvoir grandir, s'affirmer. On dit, je ne connais pas cette mère qui m'a portée. Donc voilà, comme je le dis, j'aimerais remettre l'enfant dans les bras de la mère et la mère qui voit son enfant et qui profite de ce que l'enfant apporte. Voilà, c'est mon désir le plus grand. Et je crois que comme de toute façon, dans la Trinité une, on voit que Dieu est famille aussi, dans sa manière de se révéler à l'homme pour un dialogue. Il est famille, père, fils et souffle. Le souffle est féminin, donc il y a aussi cette maternité dans le souffle. Voilà, donc aussi, par rapport à Israël, l'Église et les nations, et par rapport à nos familles, qu'il y ait cette paix. Voilà, et cette reconnaissance mutuelle des générations, cette transmission, cette filialité.
C'est un beau projet. Je me tourne vers l'abbé Wilfried. Oui, ça vous inspire quelque chose, ce dont nous discutons là maintenant avec notre amie Elisabeth Smadja? Parlez bien près du micro, mon père.
Je suis touché par ce qu'elle vient de dire tout de suite, Dieu famille. Voilà, et en partant de la révélation trinitaire de Dieu et ce mystère, voilà, rejoint aussi, pour ce qui me concerne, bon, une réalité que nous essayons de vivre en Afrique. On essaie de vivre l'Afrique, bon, l'Église comme famille, en partant la famille, partant plutôt de tirant sa source de la famille divine, et qui nous devons prendre modèle sur Dieu. Dieu est dans l'élément fondamental qui soude les membres de la famille, qui est l'amour, et aussi et au niveau de l'Église africaine, on voudrait essayer de partir de cette notion pour pouvoir vivre la charité et l'amour entre voilà, les différents membres de l'Église.
C'est beau ça aussi, ouais. C'est beau. En fin de compte, tout est une question d'amour, en fin de compte. C'est pas pour dire un mot pour un autre, c'est vraiment l'amour qui est au cœur même de... Parce que c'est ça la bonne nouvelle.
C'est ça la bonne nouvelle. C'est rétablir la relation.
Voilà, Dieu nous aime. Voilà, Dieu nous aime. Dieu n'est pas seulement une espèce de législateur, de type qui punit. Enfin, bon, évidemment que... nous sommes punis nous-mêmes par les péchés que nous commettons. Quoi. C'est, encore une fois, Dieu ne veut pas le mal. C'est nous-mêmes qui nous infligeons. Oh, on entend les gens dire, mais pourquoi Dieu permet ceci? Mais c'est l'homme lui-même qui se fait son propre mal, non?
Oui, tout à fait. Moi, je m'insurge toujours quand on dit, mais où est Dieu? Que fait Dieu? Et alors, je pense qu'il faut comprendre que Dieu laisse la place à l'homme pour qu'il puisse collaborer avec lui et s'exprimer, et que là où il y a de l'homme véritablement, c'est-à-dire du divin, il y a Dieu. Donc c'est comme si Dieu transmettait, à partir d'un certain moment, le canal de l'amour de Dieu, ici-bas, de son incarnation, c'est l'action de l'homme. Donc c'est pas qu'est-ce que fait Dieu, mais qu'est-ce que fait l'homme? Qu'est-ce que fait le divin en l'homme? Pourquoi il n'agit pas? C'est à nous d'aimer, c'est à nous de secourir, c'est à nous d'être juste, etc., etc. Et c'est pas à Dieu, il nous a donné à le faire.
Il y a une très belle... Alors j'essaie de retrouver, je la retrouve plus, c'est trop bête, parce qu'il y a une très jolie histoire juive de ce rabbin qui demande à ses élèves, où est Dieu?
Où est Dieu?
Alors, il est au ciel. Racontez-nous cette histoire. Parce
c'est
très
histoire chassidique. Voilà, où un rabbi demande à ses chassidim, donc
ses étudiants,
Où est Dieu? Alors, chacun dit dans le ciel, sur la terre, dans la Torah. Et le rabbi les regarde et il dit, non, Dieu se trouve partout où l'homme le laisse entrer.
Voilà. Voilà. Dieu se trouve partout où l'homme le laisse entrer. Je trouve ça, que Dieu c'est un homme, c'est quelqu'un, enfin une personne, c'est délicat, il est délicat. Mmh. Il ne fait pas de bruit, hein. Mmh. Il n'est pas dans les tonnerres, il n'est pas dans les éclairs, il est dans la fine brise comme ça, qui couvre là, mmh. sur la plaine. C'est, on sait que dans mon paradis, c'est par une fine brise qu'il annonce sa venue. C'était poétique, c'est pour montrer quelque chose. Mais ça, c'est très beau. Dieu est partout, là où l'homme le laisse entrer.
C'est-à-dire, tout dépend de l'homme.
C'est...
L'homme doit se faire canal, doit s'ouvrir pour recevoir cet amour et ensuite le transmettre. C'est tout vient de l'homme, toutes les choses qui sont négatives ne viennent pas de lui, mais viennent de nous qui nous fermons, qui ont fait obstacle à ce flux d'amour, parce que bon, ben on a nos égoïsmes, on veut rapatrier tout pour nous, alors qu'il faut laisser circuler cet amour. Il est circulation d'amour.
C'est alors une question que je vous repose, mais je m'ai déjà posé quand même quelques années, donc vous allez dire, hein, il repose toujours les mêmes questions, mais casse-pieds. Mais comment pour une juive, on passe du hassidisme au Christ? Comment on découvre le Christ?
Ben, je peux parler que pour moi.
Oui.
Hein, chaque histoire est personnelle, chaque rencontre avec le Christ est personnelle. Ça m'est arrivé, bon, j'ai raconté tout ça dans mon premier livre. Voilà, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Et donc c'est à partir de mon histoire. Moi, je n'ai pas eu le désir de la croix comme Jean-Marie Elisette Bon. Je me suis remise en question à partir de mon divorce, puis ensuite ma maladie. Et je pense que ce qui m'a sauvée, c'est de ne pas chercher à accuser qui que ce soit, mais à me remettre en question ma pratique, ma façon de d'être avec Dieu. Donc ça a été un chemin très 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 difficile, voilà, beaucoup, un désert, une solitude et un enfer, bon, très 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 dur à traverser. Et j'ai eu une rencontre de deux personnes, une femme qui m'a fait me poser certaines questions sur moi-même, et puis une personne qui m'a parlé du Christ. Et c'est à ce moment-là que je me suis mise à relire l'Évangile. Et ce texte m'a parlé. Il m'a parlé parce que j'étais... Moi, je dis comme ça, je l'ai rencontré dans ma brisure. Voilà, pour moi, le cœur du Christ est un cœur brisé, ouvert. Et j'ai rencontré ce cœur-là parce que moi-même, j'étais complètement brisée. Et donc, quelque chose de lui a pu entrer en moi, ce qui ne se serait jamais fait si j'étais restée dans ma pratique, parce que, bon, sans divorce, voilà. C'est comme ça que moi, j'en suis venue. Après, bon, il y a eu des rencontres, il y a eu plein de choses. C'est un long trajet et on n'en finit pas. La conversion, c'est un chemin. On n'en finit pas de marcher avec celui qui est le chemin, d'être en mouvement, de découvrir des choses, en soi, etc. Voilà.
C'est ce qui est extraordinaire, c'est que celui qui nous tient la main pour le chemin est lui-même le chemin. C'est ça quand même qui est assez curieux dans la religion chrétienne, quoi. C'est quelque chose de... Alors, alors vous écrivez ce livre, vous faites un petit peu... Alors, vous allez un peu dans les paroisses, vous allez expliquer un peu tout ça aux
catholiques d'aujourd'hui. Voilà, c'est-à-dire, moi, je propose mes services dans les paroisses. Il y a des paroisses qui me contactent. Et donc, je dispense un enseignement qui n'est pas un enseignement académique. C'est un partage de ce que j'ai vécu, de comment je comprends les choses. Donc, on peut me dire oui, non, c'est je partage, tout simplement. Ma vie de prière, ma vie d'étude, ma vie de femme qui va à la messe, qui étudie la parole, qui prie, etc.
Et comment vous êtes reçue alors par vos auditeurs et
En général, très très bien. Très bien. Les gens sont très contents parce que ça décape un petit peu leur... ils sortent de leurs habitudes puisqu'on ouvre le texte à d'autres interprétations, à d'autres lectures, et ça les met en mouvement. Et comme je dis toujours, le Christ, il est le chemin, mais le chemin, ça veut dire que c'est le mouvement. L'être humain est un être en mouvement. Et dès qu'on n'est pas en mouvement, alors on n'avance pas aussi bien physiquement que spirituellement.
C'est beau. Il y a cette expression, on dit 2000 ans de civilisation chrétienne. Moi, j'aime bien dans ce que vous apportez, puisqu'apportent aussi beaucoup de juifs convertis, puis beaucoup de chrétiens qui ne sont pas juifs, mais qui ont réfléchi sur ces questions. Je pense à des gens comme Tresmontant. C'est que vous nous rajeunissez 2000 ans de plus. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir 2000 ans, on en a 4000. C'est toujours bon à prendre, comme je dis tout le temps. Merci Elisabeth Smalja, c'était vraiment une grande joie de vous recevoir aujourd'hui. Donc je rappelle aux éditeurs votre dernier ouvrage, aux sources hébraïques de la foi chrétienne, publié chez Salvator. Ça vient de paraître, hein, c'est pas un livre très très très...
C'est au mois de juin, oui, vers le 15 juin, comme ça.
On n'a pas perdu de temps quand même.
Oui, c'est moi qui vous remercie, Daniel, de me recevoir.
Moi, j'ai pas de merci. Alors, c'est un livre très facile à lire. Oui, c'est un livre à lire. Bon, c'est un livre à lire. Très beau, vous allez vous y trouver à la fois en terre connue et en même temps avec un tout petit peu, j'allais dire, d'exotisme, j'ai des petits guillemets comme ça, qui va vous renvoyer un petit peu plus loin. Ce que je disais tout à l'heure, hein, on dit, ah, nous les chrétiens, on a 2000 ans de civilisation. Oui, ben, reprenez-en pour 2000 ans. Alors, on va vous en donner pour 2000 ans, on va vous faire remonter 2000 ans en arrière. Vous allez voir que c'est très agréable dans le fond. Parce que c'est bon. J'ai dit, on rajeunit d'un coup. Alors, évidemment, vous partez bien sûr quand vous voulez, mais vous avez encore un petit peu de temps, parce que vous avez votre.
Tout à fait.
Quand on vient vous chercher, il n'y a pas de souci. Alors, bon, vous êtes bien sûr toujours dans nos prières, et vraiment encore bravo pour ce livre que vous avez écrit en collaboration, il faut bien le dire.
Exactement, hein, avec Marie-Hélène Duparc, Locke Maria.
D'accord, publié chez.
Qui est l'auteur elle-même d'un livre. De chez Salvator, oui, Tant aimer et tant souffrir, ça, d'après Eti et Ilsou, mais c'est sur ce livre-là que nous nous sommes rencontrés, et je lui ai proposé cette collaboration, et nous avons travaillé ensemble à partir de mes conférences et de sa façon de les comprendre, de voir et de son apport à elle, à ce livre que les éditions Salvator ont publié.
Tout à fait magnifique. Alors, voilà, quelques questions pour Mme Smalja. D'où vient l'hébreu avec des lieux et des dates? La langue hébraïque, vous avez quelque chose là-dessus à nous dire?
Moi, je ne suis ni historienne, ni... Voilà. Moi, je pars de la base, pour moi, de la base du croyant, de la Bible. Je reste donc dans ces limites-là. Je dis tout simplement que, comme c'est écrit dans le premier livre, le commencement, Bereshit, la Genèse, Dieu créa le monde à partir de la parole, et nos maîtres nous disent que c'est l'hébreu. Voilà.
Alors, une autre auditrice enchantée de la lecture du livre de la Kippa à la croix de notre ami. J'ai écrit une lettre de 6 pages à Elisabeth. Bon, très bien. Ne connaissant pas son adresse, je l'ai envoyée à Salvator Diffusion. Bah oui, vous. Ah bah ça, je ne sais pas. C'est l'art, si vous me posez la question, madame, j'en sais rien. Moi, je suis pour les éditions Salvator. Bon, voilà. Donc, ils lui ont certainement transmis. Mais actuellement, il n'est pas à Paris. Hein, parce que j'aurais aussi aimé l'avoir pour cette émission. Puis, il n'était pas disponible. Voilà. Alors, mais pour quelles raisons les Juifs n'ont pas reconnu Jésus comme fils de Dieu, ça d'abord c'est un mystère.
Puis, ben oui, c'est pas évident, voilà. C'est-à-dire il faut se remettre dans le contexte.
Lisez Elisabeth Smalja, vous allez comprendre des tas de choses. Et puis alors un autre aussi, qu'est-ce qu'il dit encore? Une autre. Dieu a demandé aux Juifs de faire des choses pour leurs âmes, mais ils n'ont pas obéi. Oh, mais ça, il n'y a pas que les Juifs qui n'obéissent pas au bon Dieu.
Oui, bon, ça madame,
je peux vous le dire, il n'y a pas que... Ah oui, ça, c'est un peuple à la Lucrède. Oh, on sait tout ça. Mais nous, on est mieux. On est plus obéissants. Regardez dans quel état la France est. Alors, vous savez... Alors, c'est une bonne personne, le bon Dieu, parce qu'on aurait déjà dû avoir au moins 4 déluges et le reste avec. Donc voilà, oui, évidemment, c'est comme ça, c'est l'histoire de l'humanité, c'est la pédagogie.
C'est l'histoire de l'être humain.
Dans une classe avec 30 ou 40 élèves, il y a des bons élèves, puis il y a des élèves un peu facétieux, poétiques, puis il y a les mauvais élèves. Bah, c'est comme ça, c'est la vie. Alors, maintenant, nous avons donc, ça y est, nous avons au téléphone. Ah, comme je suis content, Ivana Gagic, vous êtes au téléphone?
Oui, bonsoir Daniel.
Pour de vrai, pour de bon, là, pour de bon.
Pour de vrai, pour de bon, je crois que nous n'avons plus de soucis techniques.
Alors, je vous entends même très très bien, très très bien, pas très très près, enfin, ne parlez pas du studio d'à côté, mais parce que vous êtes quand même, on peut dire où vous êtes aux auditeurs.
Bien entendu, je vous téléphone depuis Belgrade,
voilà.
Où je peaufine en fait les derniers préparatifs de notre prochain chantier humanitaire qui concerne donc la classe de mer 2004.
D'accord.
Nous emmenons 40 petits chrétiens des enclaves du Kosovo Métochie, donc à la mer.
C'est Marvin, magnifique. On va parler d'un autre projet que vous avez lancé à l'association qui s'appelle Solidarité Kosovo. Qui est une association bien connue des auditeurs de Radio Courtoisie, puisque quand même les uns et les autres vous passez quand même assez régulièrement, peut-être pas tous les jours quand même, ni toutes les semaines, mais enfin vous entendez de temps en temps quand même sur Radio Courtoisie, non?
Oui, Ben alors, c'est avec un grand plaisir qu'à chaque fois, nous répondons à votre invitation. Et effectivement, vous l'avez dit, Solidarité Kosovo est une association humanitaire française qui porte secours aux familles serbes, aux familles chrétiennes du Kosovo-Métochie, et cela depuis 10 ans. C'est 10 ans d'un travail humanitaire, puisque notre association est née en 2004, au lendemain d'un drame terrible qui a été qualifié de pogrom anti-chrétien, au cours desquels, en l'espace de 2 jours, bien 19 personnes ont été tuées, 5000 familles chrétiennes ont été chassées et 34 églises ont été détruites. Et de ce drame, il est né une urgence humanitaire, et face à la détresse des familles serbes qui ont été directement visées par ces violences antichrétiennes, eh bien une poignée de jeunes Français a décidé de fonder l'association Solidarité Kosovo pour leur porter secours. Et ces mêmes jeunes Français sont intervenus, comme vous l'avez dit, à plusieurs reprises sur les ondes de Radio Courtoisie.
Voilà, voilà, et on a toujours beaucoup de plaisir. Les différents patrons d'émission ici ont toujours beaucoup de plaisir à vous recevoir les uns et les autres. Je rappelle uniquement pour nos auditeurs que vous êtes chargés de la communication de l'association Solidarité Kosovo. Et là, je voulais vous faire parler ce soir de façon à ce que vous sensibilisiez les auditeurs de Radio Courtoisie sur une autre opération que vous menez, que j'appelle l'opération sauvetage du monastère. Alors, je vais essayer de le prononcer comme je peux, puis parce que ce soir, on va avoir du mal avec les langues étrangères, il va falloir que je m'y mette. Vous allez me dire si je prononce bien ou pas. C'est le monastère de Visoki Dečani, Dečani.
C'est presque parfait, Daniel. En fait, il s'agit du monastère...
Je vous en prie, ne me flattez pas, Ivana, ne me flattez pas. Alors,
Non, mais la langue serbe n'est pas facile à prononcer, et donc c'est vrai qu'on a des chapeaux renversés sur des consonnes qui n'ont pas trop de signification en France, donc c'est pour ça qu'on accepte facilement que quelques mots soient écorchés, donc alors, le mot de monastère, du monastère Visoki Dečani.
On dit Dečani ou Dečani, alors
On dit Dečani.
Dečani, hein, c'est il y a pas besoin de, il y a Dečani, pas de, c'est dit, oui. Hein, Dečani. Hein. Alors rappelez aux auditeurs de Radio Courtoisie ce que c'est que ce monastère de Visoki Dečani.
Oui, avec grand plaisir. Alors si vous me le permettez, permettez-moi de vous dire quelques mots d'introduction avant d'évoquer donc et le monastère de Visoki Dečani et le chantier humanitaire qui a été engagé il y a très peu de temps par Solidarité Kosovo, pour vous donner un ordre d'idée du contexte local dans lequel ce projet s'est amorcé. Ce que j'aimerais dire, et d'une manière très claire, c'est qu'il existe au Kosovo une volonté de destruction du patrimoine chrétien qui s'opère de manière systématique et méthodique. Ceux qui mettent en œuvre cette volonté, celle d'anéantir donc tous les témoins de la présence chrétienne, ce sont des extrémistes musulmans qui sont motivés par des raisons idéologiques très simples. Ils veulent d'un Kosovo purement albanais, c'est-à-dire un Kosovo vidé de ses chrétiens. Rappelons que les chrétiens sont 120 000 au Kosovo et qu'ils sont pour la majorité d'entre eux parqués donc dans des enclaves, dans ces villages donc qui sont cernés de fils barbelés. Et depuis une dizaine d'années, eh bien, ces extrémistes musulmans s'emploie à détruire ce patrimoine chrétien, comme je le disais, de manière systématique, et le bilan est assez éloquent. 150 sites chrétiens ont été détruits et endommagés au Kosovo. 150 églises et monastères appartenant au patrimoine chrétien européen ont été détruits en Europe sous le coup d'extrémistes ces 10 dernières années. Et pour en revenir donc à l'actualité de notre association, eh bien c'est au tour du monastère de Visoki Dečani d'être dans la ligne de mire de ces extrémistes. Alors, pour vous donner un ordre d'idée, peut-être vous dire que le monastère de Visoki Dečani, c'est un monastère l'un des plus importants dans les Balkans, si ce n'est le plus beau. Il est d'ailleurs classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est un lieu saint, mais c'est aussi un lieu de refuge pour tous les chrétiens des environs qui viennent y trouver la paix et qui viennent y trouver aussi du réconfort. Et si ce monastère venait à être détruit, eh bien c'est tout un bassin de vie chrétien qui s'éteindrait, comme cela d'ailleurs avait été le cas lors des précédentes destructions d'églises au Kosovo. Et c'est à ce moment-là qu'on a compris qu'au Kosovo, le rayonnement de l'église, eh bien c'est ce qui faisait en sorte que les populations chrétiennes étaient maintenues sur place. Et c'est justement cet espoir de vie que les chrétiens du Kosovo, qui est symbolisé par le monastère de Visoki Dečani, qui veut être détruit par certains extrémistes albanais. D'ailleurs, et peut-être en avez-vous eu connaissance, Daniel, ce monastère a été la victime victime
de plusieurs reprises.
D'attaques.
Plusieurs fois, plusieurs reprises.
Quatre fois, il a été attaqué à l'arme de guerre. Alors, je ne sais pas si vous pouvez imaginer ces 30 moines, ce sont les 30 moines qui abritent le monastère de Vysoki Dečani, qui ont été attaqués 3 fois au mortier et 1 fois au fusil lance-roquette au cours de ces 10 dernières années. C'est tout simplement dramatique.
C'est effrayant.
Ce qui est d'autant plus inquiétant, c'est que de nouvelles menaces ont récemment été proférées à leur encontre. Alors, ce sont des menaces qui sont bien réelles, et c'est des menaces qui sont prises au sérieux par toute la communauté monastique, parce que les précédentes, elles, avaient été également mises à exécution. Et donc, face à cette violence, les moines sont seuls, ils sont isolés et ils sont complètement vulnérables. Et c'est pour ne pas avoir à choisir entre la valise ou le cercueil, comme on dit, comme d'autres l'ont fait avant eux, que les moines ont décidé d'assurer leur protection en prenant cette décision douloureuse pour certains, qui est de bâtir une haute muraille de protection.
Autour.
Et c'est là où Solidarité Kosovo intervient, puisque nous financerons donc ce projet humanitaire grâce à la générosité de nos donateurs.
D'accord. Alors je rappelle, bon, votre site internet, c'est solidarité-kosovo. Alors Kosovo s'écrit avec un seul S, hein, c'est kosovo.org.
Oui, voilà.
C'est ce qu'on appelle le Kosovo Metochi aujourd'hui, c'est ça. Hein,
exactement, voilà, c'est ça.
Alors bon, Kosovo qui existe, c'est une histoire, enfin c'est alambiqué, c'est une de ces aberrations de l'histoire qui n'aurait jamais dû se passer, mais comme je l'ai rappelé tout à l'heure, c'était la grande règle que donnait le professeur Chaunu ici sur Radio Courtoisie, quand on disait mais comment que ça se fait que l'histoire va si mal depuis le commencement des temps, il disait c'est à cause de la connerie, de la connerie, de la connerie, voilà. Et ben c'est vrai, parce que la bêtise humaine, on se plaint toujours, qu'est-ce qui fait le bon Dieu, etc. On en parlait dans la séquence précédente, c'est l'homme qui fait ses propres bêtises. Et enfin, tout ça, c'est invraisemblable, cette histoire de la création du Kosovo est une chose qui dépasse l'entendement et la raison humaine. Mais enfin bon, moi je voilà, comme je suis pas intelligent, il y a quelque chose qui a dû m'échapper, mais bon, un jour peut-être je comprendrai. Voilà. Alors donc pardon.
Je disais, je partage votre avis, et c'est là toute la double peine en fait des chrétiens du Kosovo, c'est d'être persécutés sur la terre de leurs ancêtres, mais c'est celle aussi d'être complètement ignorés par la communauté internationale. Il faut dire qu'en Europe, à 2 heures d'avion de Paris, des chrétiens sont persécutés, ils se trouvent au Kosovo, et notre association les aide depuis 10 ans, en collaboration donc avec l'Église serbe, et notamment qui nous a permis notamment de mettre en place ce chantier de Vysoki Dečani, de construire cette muraille pour protéger les moines, les 30 moines et novices.
Alors la muraille, elle va se présenter comment? Alors elle va finir par cacher pas tout à fait, mais elle va cacher une partie du monastère quand même, non?
Alors l'idée en fait, c'est que cette muraille protège, donc effectivement elle va entourer le monastère, elle sera haute de 3 mètres et elle aura une circonférence de 2,5 km. Nous allons faire en sorte qu'elle soit solide pour protéger les moines et le site du monastère de nouvelles attaques, comme vous l'avez entendu, donc ces attaques qui sont perpétrées à l'arme de guerre ne laissent absolument aucune chance aux moines protéger. Donc comme il le faut. Alors effectivement, ça a été un choix douloureux pour les moines d'enfermer ce lieu de paix, mais ça a été, je pense, le seul choix qu'ils ont eu en fait à faire cette décision, puisque c'est la seule qui soit salutaire pour préserver le site chrétien du monastère du Vysoki Dečani.
Parce que la question, c'est qu'en principe le monastère était plus ou moins protégé par s'appelle la CAFOR, non, la force des Nations Unies là qui s'occupe des affaires du Kosovo, et là je pense qu'il y avait un bataillon italien, me semble-t-il, hein, qui protégeait ce monastère, et donc bon, il y avait un peu de sympathie quoi entre chrétiens, il y avait un peu de sympathie, mais là en principe la CAFOR quitte les lieux à la rentrée là, septembre, hein, non?
C'est ça, c'est le facteur en fait aggravant
qui rend urgent
le monastère du Vysoki Dečani, c'est cette annonce qui a été faite par l'OTAN de retirer ses troupes, et notamment celles qui se trouvent au monastère de Visoki Detani, du Kosovo, d'ici la fin de l'année. Ouais, donc là, on comprend que les moines seront livrés à eux-mêmes d'ici la fin de l'année. Et c'est pour cela qu'il est aussi important d'aider le plus rapidement possible ces moines à ériger en fait cette seule muraille qui sera en fait leur seule protection.
Non, la seule muraille possible serait une muraille humaine, c'est-à-dire d'avoir des villages autour des villages de chrétiens, mais c'est pas possible. Enfin, on peut pas. Donc il faut faire quelque chose. Et il y a une certaine urgence. Moi, je pense qu'à partir de septembre, il va y avoir des problèmes. Quand vous dites que les moines vont être livrés eux-mêmes, ils vont d'abord être livrés aux islamistes de ces bandits de l'UCK. Et puis voilà. Puis après, on pleurera parce que c'est affreux ce qui est arrivé. Bah, il faut prévoir. Voilà, il faut prévoir. Alors c'est une belle initiative. Une des belles initiatives qu'a prises l'association Solidarité Kosovo d'aider donc à sauver ce monastère. Alors je vous invite à aller voir beaucoup de détails, de photos, de reportages sur ce monastère de Visoki Dekani dans le Kosovo. C'est sur solidarité-kosovo.org. Ivana Gagic, ça a été une grande joie de vous avoir au téléphone ce soir, et puis toutes mes félicitations pour tout ce que vous faites, et notamment pour il faut que les enfants, les petits-enfants chrétiens aussi aient un peu de vacances de temps en temps et se changent les idées, parce que ça doit pas être très, très facile à vivre ce qu'ils vivent là-bas, donc c'est très bien de les emmener un petit peu à la mer, hein.
Merci beaucoup.
C'est
Daniel,
ce que vous allez faire.
Moi, j'ai été ravie de vous avoir par téléphone également depuis Belgrade, et nous allons faire en sorte de faire de ces 10 jours à la mer pour ces enfants chrétiens.
Très bien, ça leur fera du bien.
En fait, où ils vont oublier l'isolement et la discrimination dont ils sont victimes, mais toute notre énergie et notre mobilisation est concentrée sur le projet de la muraille pour protéger ces moines qui, en plein cœur de l'Europe, sont aujourd'hui menacés par des extrémistes albanais. En tout cas, merci beaucoup de
espérons que les amis auditeurs de Radio Courtoisie auront bien entendu votre message, vont aller se renseigner sur le site de solidarité-kosovo.org pour voir de quoi il retourne exactement. En tout cas, transmettez toute notre affection et l'assurance de nos prières à nos amis serbes là-bas que vous rencontrerez, et puis à vous, équipe de Solidarité Kosovo, toutes nos amitiés bien sûr, en attendant le plaisir de vous retrouver sur les ondes de Radio Courtoisie. À très bientôt, Ivana, et merci d'avoir été au téléphone.
À très bientôt, Daniel Ami.
Merci.
Merci beaucoup.
Voilà, donc c'était Ivana Gagic, chargée de communication de l'association Solidarité Kosovo. Et que ce soir, nous avons fait un grand tour du monde. Et alors, on va continuer notre tour du monde. Alors maintenant, vous pouvez enlever ça, parce que ça ne sert plus à rien. Moi, je suis obligé, c'est pour voir si vous parlez bien près du micro, parce que comme ça, j'entends bien. Alors, je parlais à Monsieur l'abbé Wilfried, oui. Alors, on parlait d'une classe de mer. Là, ils vont emmener une trentaine de petits chrétiens serbes à la mer. Ils n'ont pas dû voir la mer depuis longtemps, les petits chrétiens serbes, je vais vous le dire. Eh bien, la mer, ça, c'est une chose que vous ne verrez pas si vous allez au Burkina Faso.
C'est sûr.
Alors, pas la mer, parce que c'est un petit pays. Il fait 274 000 km² quand même. Enfin, la moitié, un peu plus de la moitié de la France, quoi, si on veut. Hein. Un petit peu moins, mais enfin, voilà, c'est déjà un beau petit pays, mais qui est totalement enclavé. Alors, je dis ça, c'est pour... je fais le malin, mais j'ai tout pris les notes, parce que bon, c'est les Français et la géographie, ça fait deux. Hein. Bon. Donc, c'est un pays d'à peu près 16 millions d'habitants. Il est enclavé. Alors, au nord, on trouve le Mali. Oh là, le Mali, en ce moment, c'est un pays qui est un peu agité. Hein. Il y a eu encore un accident d'avion aujourd'hui. Enfin, un accident, on ne sait pas trop. Mais enfin, bon, il y a beaucoup d'agitation islamiste au Mali. À l'est, vous avez le Niger. Au sud-est, vous avez le Bénin. Au sud, vous avez le Togo et le Ghana. Et au sud-ouest, vous avez la Côte d'Ivoire. Et au milieu de tout ça, vous avez le Burkina Faso. Alors, c'est un pays qui a accédé à l'indépendance en 1960, hein, c'est ça, je ne me trompe pas.
Donc,
ça
le fait, 5 août.
5 août, voilà, j'ai marqué 5 août 1960, parce que c'est ce marqueur, c'est une fête nationale là-bas. Hein. Oui. Bon, voilà, alors c'est pour ça. Bon, et alors, donc, ça fait 54 ans que le pays est indépendant. Alors, vous êtes dans un diocèse qui est plutôt dans le nord du Burkina Faso, c'est le diocèse de Ouaigouïa.
Exact.
Je suis allé voir, et d'ailleurs, ces auditeurs vont sur le site du blog courtois là, de Radio Courtoisie, hein, qui n'est pas officiellement de Radio Courtoisie, mais fait par des amis de Radio Courtoisie qui donnent toutes les informations sur tout ce qui se passe dans la radio, les programmes et tout. Et ben, ils trouveront le lien pour aller visiter. Je suis allé le visiter, le site du diocèse. Et je vous ai même vu d'ailleurs, parce qu'il y a toute la liste des prêtres et vous êtes dedans. Alors, pourquoi je vous ai fait venir? Parce que c'est quand même pas mal. Hein. C'est un homme jeune, vous êtes un jeune prêtre, vous avez été ordonné en 2006, donc ça fait déjà un petit bout de temps, mais pas tant que ça quand même.
Oui.
Hein. C'est pour beaucoup. Hein. Pas mal. Non, c'est pas mal, mais enfin, c'est pas beaucoup, vous allez voir. Alors, donc, ce que vous avez dit l'autre jour est tout à fait extraordinaire. D'abord, sur votre pays, trois questions qui m'intéressent beaucoup. Moi, toujours, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est l'avenir de l'Afrique. Comment l'Afrique va décoller, va se développer, parce qu'il y a des ressources colossales, en ressources naturelles, en ressources même alimentaires, enfin, parce qu'on dit, ah ben l'Afrique, voilà, bon, c'est la savane et le désert, c'est pas vrai, il y a des pays où vous avez trois récoltes par an, bon, faut quand même voir les choses, bon, peut-être pas le cas du on va voir si c'est le cas du Burkina Faso. Donc la question c'est ça, c'est comment l'ensemble de l'Afrique va se développer. Comment l'Église peut se développer dans cette Afrique, en proie à la pression quand même musulmane et même aussi islamiste. On le voit encore au Nigeria, où la situation est quand même pas bonne, avec des métastases au Cameroun, au Tchad, même, bon, c'est quand même, ça pose problème tout ça. Bon. Comment faire? Et puis aussi la question, une question qui est assez, peut-être assez spécifique pour le Burkina Faso, qui est un problème un peu général. Et on va peut-être commencer par là, si vous voulez bien, un peu général en Afrique. C'est d'abord, évidemment, pour le développement, c'est l'éducation. Il faut que les enfants soient éduqués. Il faut qu'il y ait une éducation. Et le taux de scolarisation en Afrique n'est pas très haut. Et il est très très bas au Burkina Faso. Comment ça fait-il qu'il y ait ce problème et vous qui êtes un directeur des études du collège Saint-Antoine de Padoue à Tikané, vous allez nous expliquer l'importance de l'éducation des enfants.
Merci Monsieur Daniel Amish et à tous les auditeurs de Radio Courtoisie pour ce moment à passer ensemble. D'abord, je voudrais présenter mes condoléances à toutes les familles des victimes du crash de l'avion Air Algérie. Ça s'est produit ce matin.
L'avion décollait de Ouagadougou, de chez vous, la capitale de
l'Algérie. Alger, la capitale de l'Algérie. Et il y avait une cinquantaine de morts du côté des Français et une vingtaine de morts du côté des Burkinabés et d'autres nationalités. Je présente mes condoléances à toutes ces familles. Merci. Et leur assure de mes prières. Voilà. Et pour revenir à la question de M. Daniel, c'est vrai qu'au niveau de l'Afrique, on se pose pas mal de questions sur le développement de l'Afrique. Quand on voit ce qui se passe en Afrique, et quand on voit l'Afrique dans les images, c'est la guerre, les tensions, les conflits. C'est ce qui fait un peu l'image désagréable de l'Afrique. On se demande comment l'Afrique pourra elle-même sortir de cette situation. C'est sûr qu'on peut en partie accuser le manque d'instruction, l'analphabétisme des populations qui fait qu'on n'est pas capable de faire un dépassement en soi pour mettre la cohésion et l'unité entre nous. Et moi, je trouve qu'en mettant l'accent sur l'école, pour revenir à ce qui me concerne, nous avons pour objectif principal de créer d'abord un cadre d'unité de formation humaine pour que ces jeunes-là soient formés au niveau de l'amour, l'amour du prochain. Bien sûr, en vivant ensemble, en apprenant à vivre cet amour au sein du petit cadre qui constitue l'école, à travers cela et aussi toute la formation morale, intellectuelle et humaine qui leur est donnée. À partir de là, je pense que c'est des hommes qui sont outillés pour pouvoir travailler, voilà, pour pouvoir donner leur pierre, leur contribution pour le développement de l'Afrique.
Alors ça, c'est très intéressant. Et votre collège Saint-Antoine de Padoue, vous l'avez créé quand? C'est diocésain, c'est ce diocèse qui est
oui, là. Oui, le collège Saint-Antoine de Padoue, c'est un collège diocésain. Et comme vous l'avez dit tantôt, je vais revenir sur l'historique du collège. Le Burkina Faso est un pays qui est majoritairement musulman. Bon, bien que par rapport aux autres pays voisins, il y a un faible taux de présence islamique au Burkina que par rapport au Sénégal, quand on voit le Tchad et le Niger, le Burkina est relativement moins islamisé par rapport aux pays voisins. Et pour notre diocèse, nous formons un cas particulier parce qu'au niveau du Burkina, les pourcentages sont assez relatifs par rapport aux différentes régions. mon diocèse fait frontière avec le Mali. Vous comprenez bien sûr le fort taux de musulmans dans notre diocèse. Et on s'est dit, mais tiens, il faut qu'on réagisse par rapport à cette situation d'islamisation progressive de notre diocèse, de notre pays. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut passer par l'école. C'est vrai qu'il y a d'autres moyens de pastoral, telle la radio ou autre, mais l'école, c'est un moyen de pastoral assez sûr, parce que là, on sait que du fait que la population a encore confiance à l'éducation donnée et reçue dans les écoles catholiques, et nous bénéficions parmi nos élèves de pas mal de présence au niveau des musulmans. Si je prends un peu les effectifs chez nous, on a autour de 70% de musulmans parmi les élèves inscrits dans nos classes.
70%?
Voilà. Et pour nous, c'est vraiment une grande chance, parce que à partir de là, la formation donnée aux élèves, puisque nous avons une grande liberté, on peut comparer notre école aux écoles non conventuelles en France, nous avons donc, une liberté de manœuvre pour pouvoir décider d'une grande partie du programme à enseigner dans nos écoles. Et là, on a comme matière la catéchèse systématique, qui fait partie aussi d'une matière à évaluation pour les passages en classe supérieure. Il y a aussi le cours de morale, disons, intitulé cours de civisme. Et à l'intérieur, on enseigne la morale chrétienne. Et à partir de ces deux éléments, on est vraiment sûr que plus tard, ces élèves, on aura des convertis. Pendant qu'ils sont encore chez nous, il y aura des gens qui recevront le baptême, parce qu'on compte aller jusqu'au second cycle pour faire le cycle, pour faire le lycée. Et on est sûr qu'on aura des convertis parmi eux. Et ceux qui ne se convertiront pas au christianisme, au catholicisme, ils ne seront plus des musulmans intégristes. Là, au moins, c'est une certitude. Ouais. Et pour nous, on trouve que c'est cette méthode pastorale porte des fruits qui sont vraiment assez évidents pour notre diocèse.
On va raffiner encore, ça va intéresser beaucoup certains auditeurs de Radio Courtoisie, ce que vous dites là, parce que ça m'avait l'autre jour, ça m'avait intrigué. Et alors, en plus de ça, non seulement 70% de musulmans dans l'école Saint-Antoine de Padoue.
Oui, le collège Saint-Antoine de Padoue.
De Ticaret.
De Ticaret.
Ticaret. Voilà, dont notre camarade ici présent, Wilfried Ouilly, est le directeur des études. 70% de musulmans, ils sont obligés. Il y a, pour passer en classe, il y a un programme d'éducation, on va dire, d'éducation religieuse. Et puis alors, il y a les prières aussi, il y a la prière. On fait la prière dans l'école ou pas?
Bien sûr, bien évidemment. Pour nous, notre objectif, on ne voudrait pas être trop visible, de peur de ne pas être la cible de certains intégristes. Mais au sein de l'école, on commence les cours par la prière et on termine les cours aussi par la prière. De même que les moments de devoir ou d'évaluation, ils commencent par la prière et terminent bien sûr par la prière. Et pour ce faire, au niveau du cours des catéchèses, pour la classe de 6e, dans le contenu du programme, on leur apprend les prières usuelles chrétiennes qu'ils récitent bien évidemment au début des cours, et aussi on leur apprend aussi des prières personnelles, comment formuler des prières personnelles, et ils font un peu les deux, ils font le choix entre les prières usuelles à prendre au début de la prière et au début des cours, ou bien ils prennent une prière personnelle.
Et
composé.
Les jeunes musulmans et musulmanes, parce que c'est une école où vous avez garçons et filles, hein, c'est ça?
Oui, c'est un collège mixte. Oui. On reçoit des jeunes garçons comme des jeunes filles, dont l'âge varie entre 12 et 16 ans. Vous savez, pour l'instant, on est à notre début. On a commencé en 2012.
Vous avez 6e, 5e?
6e, 5e. Et l'année prochaine, on 4e. Aura la 4e, voilà, pour la rentrée. Donc, au niveau du collège, les musulmans ne posent pas problème ils ne trouvent pas d'inconvénient pour la prière. Au contraire, ils sont même plus motivés que certains chrétiens par rapport à la prière à dire. Et même en plus des prières au début et à la fin de chaque cours, il y a aussi des messes. Comme on est au début, on a institué deux messes par mois obligatoires pour tous les élèves musulmans comme chrétiens. Bon, et il y a un engouement.
Vous dites un truc comme ça en France, mais les gens doivent se sauter sur leur fauteuil en ce moment. J'en devrais avoir des piles de messages, parce que c'est hallucinant, parce que c'est ce que vous faites fonctionne. Ça fonctionne. Vous avez des élèves, vous avez 70% de musulmans. Ça fonctionne. Vous ne transigez absolument pas sur les principes. Les parents musulmans ont l'air de s'en satisfaire, parce qu'au moins, les petites filles musulmanes vont avoir une éducation parce que dans l'islam, il n'y a pas d'éducation pour les filles. Les garçons vont avoir une vraie éducation, on va leur apprendre tous les fondamentaux, la lecture, l'écriture, le calcul, la récitation, enfin tout ce qu'il faut savoir, et puis un peu de choses techniques et de morale, ce qu'on n'a pas dans les madrassas, enfin dans les machins de où on se contente d'annoner des sourates du Coran jusqu'à plus soif. Bonjour, merci beaucoup. Voilà, c'est une... notre camarade qui prend les messages qui est venu nous en apporter. Ah, mais celui-là est tellement long.
C'est sûr que si on fait la comparaison entre les écoles dites franco-arabes ou coraniques, il n'y a rien à voir.
Il n'y a strictement rien à
voir. Parce que là, ce qu'on y enseigne, c'est le Coran. Et bon, enfin, sous le couvert d'un soi-disant le français qu'ils apprennent, alors qu'au fond, c'est uniquement le Coran qu'ils apprennent dans ces écoles. Et pour certaines écoles, les élèves même sont éduqués à une certaine mendicité, on dirait une culture de mendicité, à travers les garibous qui sont des disciples des marabouts. Et là, ça a été combattu à un moment donné, mais actuellement, c'est en train de se répandre partout au Burkina. C'est un phénomène regrettable.
C'est ce que vous dites, c'est extraordinaire. Alors, je remarque que les auditeurs réécoutent demain, c'est vers la diffusion, chers amis auditeurs, vous pouvez réécouter demain matin dans la nuit, demain matin à partir de 7h30, mais écoutez bien, parce que c'est vraiment ce qu'il nous dit, vraiment, ce que nous dit le père, est vraiment passionnant. C'est-à-dire, voilà, une école qui n'a strictement rien à voir avec cette espèce d'abandon que que l'enseignement catholique sous contrat fait. C'est au motif qu'on est sous contrat, faut pas parler de religion, faut bientôt enlever les croix quand il y en a encore dans les salles de classe, tout ça. Bon, et ben voilà un exemple qui nous vient de l'Afrique, et puis l'Afrique, le cœur de l'Afrique, quoi, le pays enclavé et tout, qui nous dit non, on est tranquille, on n'a pas de problème. Vous n'avez pas de problème en fait. Vous avez combien d'enfants là qui sont chez vous?
Pour l'année passée, on avait, au nombre des inscrits, on avait 112 élèves,
oui,
dont 32 en 6e et 39 en 5e. Et là, enfin, les effectifs que nous avons, c'est par rapport aussi à nos moyens.
Oui, bien sûr.
Comme on est en train de tout débuter, pas mal de choses à mettre sur place, même l'équipement pour accueillir un grand nombre d'élèves nous fait défaut. Donc, ce qui fait qu'on est obligé... Voilà, de limiter.
Faire, bien sûr,
voilà,
bien sûr. Donc, c'est les conditions. Oui, c'est très beau, parce que c'est un peu les conditions de l'école, ce qu'on appelle en France l'école hors contrat, celle qui ne veut pas avoir de subvention de l'État, de telle sorte d'avoir la liberté des programmes, dans un cadre programmatique en partie, qui peut être acceptable pour tous. Quoi. Apprendre à compter, apprendre la grammaire, apprendre le graphe, tout ça, c'est bon pour tout le monde. Maintenant, quand on commence à rentrer dans l'apprentissage des théories du genre et toutes ces choses-là, alors là, moi, je ne suis plus d'accord du tout sur ces histoires-là. Alors, c'est quand même épatant. Voilà, il faut faire venir ici un prêtre africain du Burkina Faso pour apprendre ces choses-là. C'est quand même énorme. Alors, vous disiez tout à l'heure que le pays était moins islamisé que les pays voisins comme le Niger ou surtout, à mon avis, c'est le Mali là, qui pose le plus de problèmes actuellement. Mais comment se porte l'Église au Burkina Faso?
Je dirais que l'Église du Burkina Faso se porte assez bien. Bon, pour revenir sur ce que vous avez dit tout à l'heure, en réalité, cette manière de faire, nous l'avons hérité des missionnaires d'Afrique qui sont venus pour la plupart de la France, qui nous ont évangélisés. Et eux, comme méthode d'évangélisation, ils sont passés par les écoles, par certaines structures sanitaires et des structures d'ordre caritatif. Et par ces structures-là, ils ont eu un impact assez fort sur l'ensemble de la population. Et je me rappelle encore que deux chefs d'État qui ont dirigé le Burkina Faso étaient des anciens
des petits séminaires.
Voilà. Donc là, c'est vraiment... Enfin, c'est des fruits de la pastorale de ces premiers missionnaires. Et je dirais aussi qu'en plus de cela, on peut noter que quelques années dans le passé, la plupart des dirigeants, ceux qui sont dans les classes politiques et les cadres du pays, la plupart de ces éléments-là sont passés par l'école catholique. Voilà. Et il y a eu une période assez regrettable au cours des années 1969, je pense, où les écoles catholiques avaient été nationalisées à la faveur d'un chef d'État qui n'était pas tout à fait pro-catholique.
Qui n'était pas bien passé par les écoles catholiques. Voilà. Il n'a pas été formé à l'école, au collège Saint-Antoine de Padoue. Parce que là, Saint-Antoine de Padoue, je peux vous dire, c'est tenu, hein, c'est pas n'importe quoi. de Ticaré, voilà, dans le diocèse de Ouagigouya. Alors, il y a combien de séminaristes actuellement au Burkina Faso, vous savez, nous, à peu près?
Au Burkina Faso, je dirais que c'est autour de 300, je ne vois pas le nombre exact, mais ça, c'est autour de 300 séminaristes. Bon, petits comme, enfin, de grands séminaristes, je vais dire, parce que les petits séminaristes, là, ça varie d'un diocèse à un autre. Mm-hmm. Dans mon diocèse, on était à 105 petits séminaristes. Voilà, et les grands séminaristes de mon diocèse, c'est autour de 35.
Voilà. Nous, en France, les petits séminaires, c'est interdit. Parce qu'on estime qu'il faut être majeur pour commencer à faire des études religieuses. Donc, la République française a décidé qu'on supprimait les petits séminaires. C'est interdit, les petits séminaires en France. Vous avez dit ça, vous? Vous ne saviez pas que c'était un pays de liberté, la France. Vous ne saviez pas que c'était un pays de liberté. Mais enfin, il faut venir plus souvent, monsieur l'abbé, il faut venir plus souvent. On va vous en raconter des belles histoires sur la France, vous allez voir. Alors, 300 séminaristes, ça fait... Ouais, ça fait pas mal, parce que c'est le coefficient 16 millions d'habitants, il faut multiplier par 4, hein, pour à peu près la population de la France métropolitaine, donc ça ferait 1200 séminaristes, je pense pas qu'il y ait 1200 séminaristes en France. Vous savez combien de prêtres sont ordonnés tous les ans? Vous avez une idée?
Bon, allez. Ça varie, peut-être je vais donner la moyenne, je dirais en moyenne, dans mon diocèse, on a en moyenne 4 séminaristes qui sont ordonnés prêtres, en moyenne, donc ça varie, il y a des années où on a... Une dizaine, il y a des années où on a peu.
Mais sur l'ensemble du Burkina, vous avez des chiffres pour cette année, par exemple?
Par an, ça tourne autour de 50-60.
Ouais, 50-60. Donc ça fait comme c'est deux fois mieux qu'en France. Hein. Deux fois et demi mieux qu'en France, quand même. Parce que nous, on n'a pas 100 ordinations sacerdotales par an en France. Et encore, la plupart, on les amalgame tous, mais beaucoup ne sont pas pour des diocèses. Hein. C'est pour des congrégations religieuses, etc. Bon. Alors, vous voyez, ça se porte pas si mal. Alors maintenant, il y a une chose, on a encore 10 minutes. Là. Oui, 10 minutes. Presque 9 minutes. Alors, il y a une chose qui m'a beaucoup intrigué. Alors, ce que j'ai pas dit à nos auditeurs, mais je vais leur dire maintenant. Enfin, ils ont dû avoir quand même un petit peu la puce à l'oreille quand je leur ai parlé de l'abbé Tanoir, qui est très connu sur Radio Courtoisie, hein, parce qu'il a sa propre émission, puis il est invité partout. Hein. Il est très apprécié, Tanoir. C'est que cet été, et je crois que vous l'avez déjà fait une ou deux fois, vous faites un peu le remplaçant dans la chapelle du Centre culturel Saint-Paul, rue Saint-Joseph, que connaissent très très bien les auteurs de Radio Courtoisie, parce que cette adresse doit être donnée à peu près 4 fois par jour, avant d'y dans différentes émissions. Alors, et vous le remplacez, parce que l'abbé, je crois qu'il est rentré maintenant, hein, mais il a pris un peu de repos, il avait besoin quand même. Bon. Et comme ça lui permettait de ne venir à Paris que le dimanche, puis parce que le dimanche, il y a quand même beaucoup de monde, il y a beaucoup d'offices. Mais enfin, vous, toute la semaine, vous étiez là pour célébrer la messe. Alors, la question quand même que je me pose, c'est que la messe qu'on célèbre au Centre Saint-Paul, chez l'abbé Guillaume Tellard, c'est uniquement ce qu'on appelle aujourd'hui, depuis Benoît XVI, la forme extraordinaire du rite romain. Alors c'est quoi cette histoire? Racontez-moi un peu.
J'ai connu cette messe dite forme extraordinaire. D'abord, j'en ai entendu parler quand j'étais au grand séminaire dans un cours de liturgie. Et par la suite, à travers un partage avec un ami prêtre, également du Burkina Faso, qui a eu cette chance de connaître la liturgie avant moi et qui a fait le partage avec moi, avec gentillesse. Et j'ai vu à travers son partage une richesse à découvrir. Et par lui, je suis venu en France pour d'abord au monastère de Flavigny et ensuite au Centre Saint-Paul où j'ai passé quelques jours avec l'abbé des Tanoines qui par la suite, qui m'a d'ailleurs initié à la célébration dans la forme extraordinaire et que j'ai beaucoup apprécié parce qu'après on a échangé sur l'expérience que j'ai eue à travers la découverte de cette forme, la messe. Et par la suite, régulièrement, il m'invite à venir faire le remplacement en période d'été. Et moi, j'ai beaucoup apprécié cette liturgie parce que j'ai apprécié le caractère recueillement, le caractère sacré. Qu'on donne au mystère et le respect du sacré et qu'on retrouve dans la forme extraordinaire de la messe. Et tout le mystère de la liturgie, on le retrouve bien présent à travers cette forme extraordinaire de la messe. Je ne dis pas qu'il n'y a pas ce caractère sacré dans la forme ordinaire, mais davantage dans la forme extraordinaire.
Alors, la question, alors, mais c'est applicable en Afrique ou pas? Votre évêque sait tout ça ou vous ne l'avez pas dit à l'évêque?
Mon évêque, il sait en partie. Et disons que mon expérience a commencé avec mon ancien évêque qui est actuellement l'archevêque de Ouagadougou, nommé et créé cardinal en février dernier. Et c'est lui d'ailleurs qui m'a permis de venir faire cette expérience. Et pour la petite histoire, il avait même, avant même que je ne fasse l'initiative, il avait demandé à tous les prêtres de son diocèse qui voudraient éventuellement faire un approfondissement en cours de latin pendant une année et aussi connaître la liturgie forme extraordinaire. Il y avait un diocèse en France qui était disposé à accueillir les prêtres qui voudraient faire cette expérience. Bon, là, je pense qu'il y a eu un qui a fait l'expérience et après son passage, il n'y a pas eu un deuxième. Peut-être que ça a découragé un peu les autres, peut-être. Et bon, moi, à la suite, moi, j'ai eu une expérience, pas forcément dans ce cadre, mais dans un autre contexte que j'ai beaucoup apprécié. Voilà, et je pense que de plus en plus, et au niveau des séminaires, parce que tout récemment, il y a des séminaristes de la paroisse, là où se trouve le collège, qui m'ont approché parce qu'ils savent que je célèbre la messe forme extraordinaire. Ce n'est pas un secret pour les prêtres du Burkina, de mon diocèse surtout. Et ces jeunes séminaristes m'ont approché, ils m'ont demandé à ce que je célèbre la messe.
Mais pour avec célébrer avec eux, dans la forme extraordinaire, et puis qu'ils aient un peu quelques notions aussi au plan de la liturgie de ce que c'est que Alors, ce que vous avez dit est très beau sur la forme extraordinaire, qui n'est pas vraiment la forme ordinaire, c'est tout à fait légitime, il n'y a pas de souci. Mais moi je me souviens, mais ça remonte déjà à pas mal de temps, c'était avec quelqu'un qui était un grand patron d'émission sur Radio Courtoisie, qui s'appelait Serge de Bekech, avec qui on avait passé un dîner avec un cardinal de la Sainte Église romaine, un cardinal Silvio Oddi, qui avait dû être préfet. Je crois qu'il avait été préfet de la congrégation du clergé. C'était un personnage très très important. Un homme vraiment très très bien. Un petit bonhomme, mais très très bien. Et alors, on lui a posé la question, éminence. Alors, mais c'est... À l'époque, on ne parlait pas de forme extraordinaire. C'était avant. Hein. C'était il y a 10 ou 15 ans, peut-être. Bon. Et on lui dit, mais c'est quoi la différence entre la messe de Saint-Pie V, pour vous, la messe de Saint-Pie V et la messe de Paul VI. On parlait comme ça à cette époque-là. Bon. Alors il disait, alors il avait l'accent italien, je ne vais pas vous le faire ici, mais je pourrais le faire l'accent italien, il disait, c'est la même chose, mais pour un prêtre, la messe de Saint-Pie V, elle vous porte, mais la messe de Paul VI, il faut la porter. Il disait que la messe extraordinaire, pouf, elle porte le prêtre, elle doit porter en principe celle de Paul VI, il faut faire un effort quand même hein, pour... Alors, il y a des prêtres qui s'en sortent très très bien, qui célèbrent tout à fait magnifiquement. C'est l'idée un peu du double enrichissement de la messe. Mais c'est vrai que plus la messe extraordinaire est célébrée, plus elle va influer aussi la forme de célébration de la forme ordinaire. Et moi, c'était ma grande thèse, c'était il faut rendre extraordinaire la forme ordinaire et ordinaire la forme extraordinaire. Enfin oui, c'est tout. C'était... Voilà. Alors, j'espère que nos auditeurs auront été enchanté comme je l'ai été moi d'avoir entendu déjà chez l'abbé Tanoir dans son émission sur Radio Courtoisie l'abbé Wilfried Ouilly, qui c'est quand même un personnage extraordinaire. Rencontrer des gens comme ça en 2014, j'en reviens pas. Et puis qu'ils auront été tout à fait intéressés par ce qu'il a raconté, notamment sur les questions que Jean Liturgie compte beaucoup, mais compte aussi beaucoup la question de l'éducation. L'éducation, c'est ce dont l'Afrique a le plus besoin, c'est l'éducation. Si l'éducation est réussie en Afrique, eh bien, le reste suivra derrière. Parce qu'on fera des gens intelligents, des gens cultivés, et puis des gens, surtout dans l'éducation catholique, des gens pieux et des gens qui auront de la moralité. Même si après, ils ne suivent pas comme il faut, patati, il n'y a pas de souci. Ça leur restera pour le restant de leur vie. Monsieur l'abbé Wilfried Ouilly, merci beaucoup pour ce témoignage que vous venez de donner à nos auditeurs de Radio Courtoisie. J'étais hanté de vous voir. Donc, je rappelle que vous êtes prêtre du diocèse de Ouaïgouya, au Burkina Faso, et que vous êtes le directeur des études du collège Saint-Antoine de Padoue de Ticaré. Vous n'avez pas de site spécifique pour votre petit collège Saint-Antoine de Padoue. On pourrait voir des photos, des choses comme ça, non?
Pour l'instant, on n'a pas de site. Bon, des photos, j'en ai à ma disposition.
Une petite page Facebook, et puis vous mettez comme ça les photos, ça nous ferait plaisir de voir. Et puis comme ça, de temps en temps, on circulerait, on partage les Facebook. Hein.
Et voilà.
Alors maintenant, vous allez vous rester avec nous, puis vous allez écouter quelqu'un de... Là, il faut remettre les casques, parce qu'il va nous pleuvoir comme à Gravelotte, parce que je sens qu'il y a maître Jérôme Triomphe qui est au téléphone.
Ah, cher Daniel, bonsoir, cher maître,
c'est une grande joie de vous avoir. Alors vous allez faire, au feu d'artifice, il y a le bouquet final, hein. C'est vous qui allez faire le bouquet final ce soir.
Ben écoutez, vous êtes bien aimable.
Non, c'est un défi que je vous lance.
Eh ben écoutez, voilà, nous sommes réunis. J'imagine que vous avez déjà eu Vivien Hoche.
Tout à fait, en tout début. Lui, il a fait l'ouverture.
Voilà.
Il a fait ce qu'on appelle en feu d'artifice le marron. C'est une pièce qu'on lance en l'air, qui fait très peu d'éclat, mais qui fait beaucoup de bruit, pour que les gens sachent que ça commence.
J'espère que les informations que je vais vous donner vont se recouper avec lui, mais on ne s'est pas concerté. Alors nous sommes à la Castille, comme il a dû vous le dire, dans ce lieu magnifique qui se trouve dans le diocèse de Toulon, puisque nous sommes accueillis pour l'université d'été de la Griffe et du centre Charlier. Et je dois dire que le moment est parfaitement agréable. Vous m'avez coupé dans un excellent moment passé en famille avec quelques abbés. Nous sommes tous en train de manger dehors sous les platanes.
Moi aussi, je suis avec un abbé là dans le studio. Qu'est-ce que vous croyez?
Absolument. Mais écoutez, voilà. Mais enfin, nous sommes...
La Castille, c'est le séminaire du diocèse de Toulon, c'est ça?
Voilà, absolument. Donc, nous sommes dans un cadre tout à fait enchanteur et l'université d'été se passe très très bien, donc c'est avec grand plaisir que je prends le téléphone pour vous conter deux trois nouvelles.
Avec bonheur.
Trois nouvelles qui viennent de tomber, donc il y en a une que vous connaissez déjà et qui la nouvelle est déjà ancienne, mais je rappelle que l'échéance approche, c'est le procès des infiltrés,
oui.
De l'émission des infiltrés qui viendra donc le 11 septembre 2014 à 13h30 à la 17e chambre. Pour rappeler de quoi il s'agit, les infiltrés, c'est ce concept d'émission qui a été créé par l'agence CAPA, qui consiste à infiltrer des journalistes sous des identités d'emprunt fumeuses, qui escroquent des images. En l'espèce, c'était un garçon qui était un journaliste qui se faisait passer pour un athée désirant revenir sur le chemin de la foi pour infiltrer la paroisse Saint-Éloi de Bordeaux. Le même journaliste qui se faisait passer pour un pion, un surveillant dans le but, enfin pour aider l'école privée Saint-Projet alors qu'il était journaliste, sans le dire évidemment, et qui se faisait passer pour un militant de la cause nationaliste ou identitaire au sein de l'association Diasiré, dans le but d'infiltrer et de prendre des images. Cela a donné lieu à ce montage absolument ignoble, honteux, auquel vous avez été lié de près, non pas...
Ah bah oui, j'étais sur le plateau de l'émission, vous parlez, si je m'en souviens.
Et évidemment, et c'est grâce à vous d'ailleurs, puisque vous aviez pré-enregistré ce plateau, oui. Vous avez pu nous prévenir, et nous avons pu lancer des actions préventives avec les différents avocats, et je crois que finalement, nous en sommes pas trop mal tirés, parce que nous avons pu démontrer... eh bien, la perfidie de ces gens-là, puisque nous leur avons notamment dit, moi, étant l'avocat de l'Institut du Bon Pasteur, dans ce reportage, ils mentaient effrontément et hontément en disant que la cave de l'association militante factieuse dans laquelle il se passait des choses abominables était la cave de la paroisse Saint-Éloi, sauf que la paroisse
Saint-Éloi... C'était pas ça. On ne dira pas où c'était, mais c'était pas ça.
N'a jamais...
On a eu une cave.
Voilà. Donc, et tout le...
Parlez plus près de votre téléphone, maître.
Alors écoutez, je fais au mieux parce que je pense que ça...
C'est mieux.
Voilà, là c'est mieux.
Ah, c'est mieux.
Tout le lien de cette affaire était c'était le lien entre l'association factieuse, la paroisse intégriste et l'école.
Et l'école fasciste à la nazie.
Et pour faire le lien entre les deux, il fallait trouver un lien. Et le lien, c'était la cave de l'église Saint-Éloi, dans laquelle se déroulaient les activités factieuses. Sauf que Saint-Éloi n'a jamais possédé la moindre cave.
Ces gens sont des canailles. Mais ils ont déjà été. Vous les avez déjà fait condamner. Maintenant, c'est un appel, là, maintenant, non?
Il y a eu plusieurs condamnations à notre profit dans ces affaires. Alors là, nous avons attaqué. Donc, ils ont été mis en examen, renvoyés pour diffamation.
Ah, c'est intéressant.
Alors, je donne les noms. David Pujadas, renvoyé au correctionnel pour diffamation. Patrick de Carolis, directeur de la publication à l'époque de France 2. Hervé Chabalier et l'agence CAPA, qui ont produit le film, Mathieu Maille alias, enfin Mathieu Beurrier alias Maille, dont on emprunt le journaliste infiltré, et Laurent Richard, qui était le directeur de la publication ou de la rédaction des infiltrés. Ils sont tous renvoyés en correctionnel pour diffamation et nous plaideront le 11 septembre. Sachant que, je le rappelle aux auditeurs qui ne se souviennent peut-être pas, mais nous avons déjà eu au minimum 3 condamnations à notre profit dans ces affaires. Ouais. D'abord, le JDD qui s'était permis d'écrire...
Il nous reste 4 minutes, cher maître. 4 minutes.
Oh là, mais c'est affreux.
4 minutes.
Bon, alors voilà. Donc nous plaiderons le 11 septembre 2014 à 13h30. Ça sera une très grosse audience qui est prévue sur toute l'après-midi. Deuxième affaire dont je voulais vous parler. Alors, l'information est livrée en exclusivité pour Radio Courtoisie.
Merci.
Bien qu'elle ait déjà été livrée en exclusivité à l'Université d'été de la Griffe, mais il n'y avait pas...
Oui, mais ça, c'est pas un média, tandis que nous sommes un média.
Absolument. Jean-Michel Ribes, le sémillant directeur du Théâtre du Rond-Point, gavé de subventions publiques. Directeur du Théâtre du Rond-Point qui a produit l'ignoble saloperie Golgotha Picnic.
Une minute, dites-moi en 30 secondes ce que représentait la salle, la scène.
Examen pour provocation à la haine, à la violence et à la discrimination envers les chrétiens, mais vient d'être renvoyé il y a 2 jours devant le tribunal correctionnel par une ordonnance du juge d'instruction particulièrement ferme. Parce que on dit qu'en droit de la presse, le renvoi correctionnel est automatique. Ce n'est pas vrai. C'est vrai en diffamation, parce que le juge d'instruction n'a pas apprécié la vérité des faits. Mais en matière de provocation à la haine, le juge a une marge d'appréciation. Le juge a dit que les propos ignobles, c'est moi qui dis ignobles, mais tenus dans cette pièce, envers le Christ, mais également envers les chrétiens, dépassent les limites admissibles de la liberté d'expression eu égard à leurs outrances, et que ce faisant, eh bien, l'infraction poursuivie de provocation à la haine, à la violence et à la discrimination envers les chrétiens nécessitait d'être examinée par un tribunal correctionnel. Ouais. Donc, nous attendons une date d'audience dans les deux mois qui viennent, et nous serons dans 2 mois à peu près, quand nous plaiderons, a priori, dans une petite année, nous plaiderons enfin l'affaire Golgotha Picnic après 3 années de bataille judiciaire.
C'est magnifique.
Donc,
comme quoi il faut.
Exclusivité pour Radio Courtoisie, il faut se battre.
Et c'est
il
bien.
Faut se battre. Et encore une fois, c'est d'autant plus intéressant que cette motivation du juge qui tient en 4 lignes est cinglante. Et voilà, je pense
magnifique.
Nous pouvons tous nous en réjouir.
Eh bien, écoutez, mon cher.
Donc, le combat continue.
Voilà, mais Jérôme Triomphe, avec vous, Maître Triomphe, on sait très bien que le combat continuera. Tout simplement, on ne lâche rien. Déjà, premièrement. Bon, voilà. Bon. Alors, vous me dites, vous étiez avec quelques abbés, là, en train de siroter fumer des cigares au frais, non, c'est ça, non?
Oui.
C'est quels sont les abbés? On peut connaître, on peut aider, dénoncer les noms?
On peut dénoncer les noms. Il y a donc l'abbé Forestier. Nous avons un jeune diacre, un autre abbé qui vient de quitter la Fédération pour venir au diocèse de Toulon. Voilà. Et puis l'abbé Gouillot, qui est.
Ah, une bonne personne aussi, tout ça.
Qui est l'aumônier attitré de.
Que des bolcheviques.
Pour les universités d'État.
Que des bolcheviques, que des bolcheviques. Eh bien, je m'en réjouis. Je vous souhaite une bonne fin. Elle se termine quand, votre université d'été, là?
Eh bien, écoutez, elle se termine mardi prochain.
Ah, mais mardi. Ben moi, ça va terminer plus tôt, parce que là, j'ai plus que 30 secondes. Hein, donc voilà, c'est fini pour moi cette semaine. Alors, on vous retrouvera, cher Maître Triomphe, n'oubliez pas la date du jeudi 21 août, où là, vous serez en compagnie de Guillaume de Thiolois.
Eh bien, écoutez.
Et en direct. Voilà.
Hein? À bientôt.
Eh bien, que Dieu vous garde tous, et bonne fin de journée, et bonne fin d'université, et bravo pour tout ce que vous faites. Voilà, c'était donc Maître Jérôme Triomphe, avocat au barreau de Paris, bien connu de nos, et très apprécié, bien connu et honorablement connu de nos éditeurs de Radio Courtoisie. Eh bien, mes chers amis, c'est la fin de cette émission. Vous retrouverez le Libre Journal de Chrétienté dans 4 semaines, c'est-à-dire le jeudi 21 août, mais ce sera Monsieur Guillaume de Thiolois qui sera aux manettes pour les 3 heures de l'émission. On se retrouve, nous, dans 4 semaines pour le Libre Journal de Chrétienté et moi-même dans 8 semaines. D'ici là, bien sûr, que Dieu nous garde.
Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie. Vous venez d'entendre le Libre Journal de Chrétienté dirigé par Daniel Amiche, diffusé en direct jeudi 24 juillet 2014 de 18h à 21h. Il est diffusé en différé vendredi 24 dans la nuit de 2h à 5h dans la matinée de 7h30 à 10h30, puis à la demande sur le site internet de Radio Courtoisie. Ce libre journal a été réalisé par Jocelyn. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres, adhérez à notre association. Pour cette année, la cotisation minimum est de 40 euros. Envoyez votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016, Paris. Nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de ce libre journal. Commandez le CD-ROM pour le prix franc de port de 9 euros ou 6 euros seulement si vous êtes adhérent de notre association. En rédigeant des chèques distincts pour la cotisation et pour l'enregistrement, vous faciliterez la tâche de notre secrétariat bénévole. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016, Paris.